RMC.
Effectivement, si vous arrivez cric-crac, vous avez plus de chances de louper votre avion.
Ma volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club.
Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Ici, c'est Paris.
After Paris.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast After Paris avec cette semaine Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
Et Jimmy Brown, salut Jimmy.
Salut Nico, salut Roland, bonjour à tous.
Paris a tremblé, mais Paris est sauvé. Paris est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Soulagement, mais pourquoi faire? Avec quelle ambition? Avec quelle équipe? Jusqu'où ce PSG peut-il aller en Ligue des Champions? On va tenter de répondre à ces questions ensemble. Vous écoutez le podcast After Paris, c'est parti. Le PSG, coach Jimmy, est donc passé cric-crac, voilà, comme le dirait un illustre entraîneur que tu as bien connu en tant que joueur, coach. Grâce à la différence particulière, supérieure à celle du Milan, hein, victoire 3-0 du PSG à l'aller, victoire 2-1 du Milan au retour. Donc ça joue grosso modo à 2 buts, voilà, dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Merci Mike Maignan, au passage, quand même.
Oui,
ancien du PSG.
Un arrêt extraordinaire.
Auteur d'un grand match contre Newcastle. Le PSG se qualifie donc pour la 12e fois consécutive pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Vrai, Jimmy, il faut quand même le préciser, il ne faut pas le minimiser. Alors certains diront, mais oui, mais c'est normal avec l'argent investi, la puissance de ce club. 12e fois consécutive en Ligue des Champions en 8e de finale.
C'est une performance, c'est sûr. Maintenant, ça aurait été une anomalie de ne pas se qualifier. Il faut le dire aussi. Justement, de par l'historique, ouais. En fait, si tu veux, le passé, normalement, c'est censé être une formalité, cette phase de groupe pour un club de la dimension du PSG. Force est de constater que ça ne l'a pas du tout été. Tu parles de sauver par Maignan sur le match D1, etc. Tu es aussi sauvé par un pénalty à la 97e minute contre Newcastle. Parce que si tu n'as pas ce pénalty-là...
Avec un arbitre qui s'est fait virer.
Voilà. Au bout du match contre Newcastle, tu peux être dernier de la poule ce matin. Donc voilà, ça se joue vraiment à très peu de choses. Maintenant, ils l'ont fait. Ils se sont qualifiés. On a tendance à dire souvent que la vérité du mois de décembre n'est pas celle du mois de février. Moi, j'ai souvenir à de nombreuses reprises sur les 12 saisons que tu évoques, sur les 11 qualifications précédentes, de plein de fois où Paris a été impressionnant en phase de groupe et puis arriver les phases finales.
C'est une formalité, il y a quelques années.
Oui, mais arriver en huitième de finale, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de répondants. Donc, on peut espérer cette fois que ce soit le phénomène inverse qui se produit, c'est-à-dire que ce soit un PSG très poussif, mais qui progresse jusqu'à février. Pour progresser jusqu'à février, on va en parler, Roland, je pense qu'il va falloir recruter au mercato d'hiver. Il va falloir espérer récupérer des joueurs et malheureusement, c'est pas certain que ces joueurs-là qui sont blessés actuellement, je pense à Kimpembe, je pense à Nuno Mendes surtout, soient opérationnels pour un huitième de finale. Et il va falloir, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, au Paris Saint-Germain, avoir de la chance au tirage. Et ça, que tu finisses premier ou deuxième, en général, c'est pas là où t'es le plus fort. Donc on verra lundi, peut-être que Luis Enrique va inverser la tendance et que tu vas avoir un bon tirage en huitième.
Ce sera lundi midi. Je rappelle que le PSG n'a plus passé le stade des huitièmes de finale de Ligue des Champions depuis 2021. Échec l'an dernier en huitième de finale. Échec il y a 2 ans aussi en huitième de finale. Donc est-ce qu'on va revoir ce PSG au moins en quart de finale? C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je vais quand même rappeler le plateau, les amis, adversaires potentiels du PSG. À Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Real Sociedad, FC Barcelone, Atlético de Madrid. Je t'ai pas entendu là-dessus, coach. Peu importe. Tu dis, ou mieux vaut éviter quand même Bayern.
Je vous écoute attentivement et après j'essaierai de rajouter un ou deux petits trucs.
Roland, il est remonté, je te préviens. Il m'a appelé ce matin, Roland, il est très remonté. Il est très remonté.
Mais contre quoi?
Mais contre le fait que ça paraît être un exploit que le Paris Saint-Germain se qualifie pour les huitièmes de finale. Mais déjà, vous allez me dire, ça fait 12 ans, ou ça fait même 15 ans, et même si ça fait 20 ans. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se passe aussi depuis 3 ans. Depuis 3 ans, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à terminer premier. Et bizarrement, aujourd'hui, on est en train de parler des exploits de Paris Saint-Germain, en négligeant un peu, et je ne veux pas être le maniaque de la bande, que depuis 3 ans, si par exemple le Paris Saint-Germain rencontre
le Bayern,
non,
City.
Pas City, le Real Madrid, Mais c'est tout simplement parce qu'il y a eu un match nul contre Bruges
qui a fait faire
en sorte que le Paris Saint-Germain termine second et rencontre le Real. En ce qui concerne le Bayern, mais c'est tout simplement une erreur de communication dans le goal à virage contre Benfica qui fait qu'on termine second et en terminant second, on rencontre le Bayern. Là, mais si je regarde le parcours, on va me parler du groupe de la mort, mais la mort déconne pas quand même. Ou alors, j'arrête pas d'entendre ces zones de transition, j'arrête pas d'entendre que Luis Enrique n'a pas encore trouvé son équipe type, mais on n'est plus dans une époque avec l'équipe type, on est dans une époque avec un plan A, avec un plan B, on est dans une époque où pour moi l'effectif de Paris Saint-Germain avec peut-être une petite retouche, puisque tu as le chèque pour la faire, cette petite retouche, mais cet effectif est tout simplement monstrueux. Maintenant, si tu m'expliques que les bons choix de Luis Enrique, que Luis Enrique c'est un magicien et qu'il nous invente hier alors qu'on rencontre une équipe fantôme qui n'a plus d'essence dans les réservoirs et que pour gagner la bataille du milieu, tu me mets Vitinha en numéro 6, eh bien je dis bravo, moi je suis complètement dépassé, j'y comprends plus rien, j'ai vieilli.
Bon, c'est que le début de Podcast After Paris. Hein. On va monter en pression, vous l'avez compris. On démarre doucement pour l'instant. On va monter encore un peu plus. Tu m'as pas répondu hein, sur l'adversaire qu'il faut absolument éviter.
L'adversaire ?
Ouais.
Mais tu te rends compte que tu as cette équipe, puisqu'on laisse Dortmund de côté, qui se dit ouf, on va pas rencontrer le Paris Saint-Germain. Tu as cette équipe qui se dit qui c'est qui est second ? Le Paris Saint-Germain, pourvu qu'on rencontre pas le Paris Saint-Germain. Tu penses pas que les sept équipes, ils souhaitent rencontrer le Paris Saint-Germain quand même ?
Tu penses qu'elles auraient raison d'avoir peur ? Ce PSG laborieux, médiocre en phase de poule.
Ah, mais ce PSG avec Vitinha qui protège une charnière centrale qui s'appelle Marquinhos aujourd'hui avec Skriniar, c'est sûr que tu peux pas en avoir peur. Ça, c'est. Tiens, la vidéo, tiens un staff. Quand on va te montrer les images de ce que fait ou de ne se fait pas le Paris Saint-Germain dans le match aller à match, etc., mais tu sautes de joie. Mais par contre, imaginons que Luis Enrique nous prenne tous à contre-pied et qu'il n'invente plus rien. Et qui nous met tout simplement une équipe normale, avec des bons joueurs, et la possibilité d'avoir un banc extraordinaire et de faire cinq changements. Eh bien, ça peut arriver, ça, au mois de février.
Je vois une obsession sur Vitinha en numéro 6. Est-ce que ces équipes-là, que le PSG peut affronter, doivent forcément avoir peur d'un PSG avec un Danilo en 6 ou un Ugarte en 6 ? Pas forcément plus, coach. Parce que tu parles que du numéro 6.
Mais moi je suis
pas forcément.
Mais
non
je
plus.
Te dis, je suis vieux.
Qu'est-ce qui
vaut ? Je suis encore dans une époque où je pense que gagner la bataille du milieu, c'est important. Quand je vois que hier, contre cette équipe fantôme de Dortmund qui n'a plus d'essence dans le réservoir, qui s'est tapé sur les 8 derniers jours, Leverkusen, Leipzig à 10 contre 11, plus Stuttgart, pendant que le Paris Saint-Germain a une dizaine de jours pour rencontrer la sympathique équipe de Nantes. Et qu'on n'arrive pas à bousiller cette équipe qui avait des crampes déjà à la 60e minute,
oui, mais...
et qu'on est là en train de dire « Waouh, vive Milan !» Eh bien, sincèrement, je suis déçu par ce manque d'ambition où vraiment, c'est moi qui suis hors sujet
non,
et que l'effectif
Roland,
du Paris Saint-Germain...
Je pense que tu surestimes l'effectif du PSG,
non,
c'est tout.
Non, moi je pense, Roland, qu'il y a un facteur que tu n'as pas évoqué. Il y a une problématique, je pense aussi, psychologique et mentale. Je pense que les gars avaient peur, en fait. Ils avaient tellement peur de l'échec. Ils avaient tellement peur de finir en Europa League que finalement... Bon, t'as eu un espèce de soulagement. Moi, je comprends pas, je te dis honnêtement, on en a déjà parlé. Comme je te disais, Nico, avec Roland, on a échangé longuement ce matin. Je comprends pas cette fin de match. Moi, c'est cette fin de match, en fait, où je rejoins complètement ce que dit Roland. Tu sens qu'ils sont carbo, tu le vois. Et même, d'ailleurs, l'attitude de Kylian Mbappé sur le terrain le prouve. Tu dois les tuer,
Jimmy,
en fin de match, cette équipe-là.
Tu as malheureusement, pour moi, tu as malheureusement raison. L'élimination éventuelle... est possible qu'il aurait pu...
Ça aurait été un drame,
hier.
Roland, ça aurait été une catastrophe.
Mais j'espère qu'on n'aurait pas parlé du match d'hier. J'espère qu'on aurait parlé des inventions, notamment le match aller à Newcastle, quand même.
Je te pose une question,
simplement. Tu sais pourquoi je m'énerve ? Je te l'explique. Je ne vais pas attaquer à mon âge une carrière de jaloux, j'étais jaloux de personne. Mais j'ai quand même un petit peu des souvenirs. Mais si je fais les choix de... Luis Enrique, à l'époque où je suis moi entraîneur de Marseille, mais je me fais couper en rondelles.
J'entends, mais juste pour revenir sur la fin de match que souleva à l'instant Jimmy, Mbappé était le seul joueur à vouloir jouer, gagner.
Oui, le numéro 9 de Paris Saint-Germain,
voilà.
Dénommé Mbappé, d'accord.
Oui, c'est vrai
que c'est un numéro 9.
Oublie les choix tactiques, disposition sur le terrain. Toi, l'entraîneur, là, à 10 minutes de la fin du match, comme Marseille l'a vécu, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, tu dis quoi à tes joueurs ? Les gars, on assure la qualification et donc le match nul à partout. Où on va chercher la première place ?
Je vais répondre Roland parce qu'il m'a donné une très bonne formule tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit, moi, je ne reproche pas la prudence de Luis Enrique sur les 5 dernières minutes. Je reproche son incompétence sur les 85 premières.
Mais moi, je veux savoir
sur les 5 dernières minutes, ça veut dire que tu aurais fait la même chose, Roland.
Ben oui.
C'est pas choquant de verrouiller pour toi.
Mais disons que, en plus de ça, le football est capricieux. Tu t'imagines un Paris Saint-Germain, on a déjà vu. 2 buts en 3 minutes.
Bien sûr.
Tu t'imagines le Paris Saint-Germain prudent ? Là, à ce moment-là, on ne serait pas en train de parler que notre ami Kylian, il était en train d'avoir les boules qu'on n'attaque pas. Imaginons que Newcastle égalise et après, il y a 2-3 minutes, quand on vient de vivre ce qui s'est passé à la 98e minute dans le dernier match du Paris Saint-Germain contre Newcastle, il peut se passer une égalisation. Et là, tu es en train, prudemment, d'attendre le coup de sifflet final et tu apprends que Newcastle vient de mettre 2 buts. Eh bien, je dis que j'aurais choisi, moi aussi, d'être prudent. Mais en regardant la montre, sans arrêt, en ayant peur que Newcastle égalise.
Et le drame de tout ça, c'est qu'avec toute cette prudence-là, si on tient un contrôle raté de Marco Reus à la 91e minute dans la surface de réparation,
c'est
une situation incroyable. Alors que Paris avait arrêté de jouer.
Oh mon Dieu.
Jimmy, ton avis là-dessus. Effectivement, arrête d'inventer, comme coach, je crois qu'on est beaucoup à le penser, de mettre les joueurs dans leur zone préférentielle, à leur poste, tout simplement. Un 6 est un 6. Un 8 est un 8.
Mais tu te rends compte qu'hier, on a quand même ce joueur qui est pour moi monstrueux, ce jeune joueur qui, en plus de ça, mais c'est même pas
Warren
seulement.
ZRM,
que, ouais, c'est pas seulement que je le trouve extraordinaire, je le trouve même sympathique et je le trouve attachant. Quand je le vois avec la lucidité d'égaliser et de courir au sprint, exactement, même pas d'avoir la réaction
de
lever les deux bras en l'air, lui il va prendre le ballon et il le ramène et tout.
Non, mais il n'est pas fait comme les autres, lui.
Mais attention, c'est un joueur très rare, ça.
C'est un joueur rare, mais c'est un des rares joueurs rare au PSG, Jimmy. La question qui nous réunit, c'est jusqu'où ce PSG peut-il aller ? Bien sûr, le tirage au sort va conditionner l'aventure parisienne. Parce que si tu joues City, tu joues pas la Real Sociedad, évidemment.
Non, mais moi, je pense que...
La question est de savoir ce qu'elle a dans le bide et est-ce que les 2 mois et demi qui vont venir avec un mercato peut changer le visage de ce PSG ?
Je pense que oui. J'ai envie d'être optimiste et je pense que oui. Je pense que le PSG va progresser, que le PSG en février sera plus fort. Luis Enrique l'a dit hier, il dit on sera plus fort en février. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je rejoins Roland sur plein de points qu'il vient d'évoquer. Là, on ne peut pas donner tort à Luis Enrique. Il l'évoquait en conf de presse. Il dit « Moi, j'ai eu 11 recrues. Je découvre quelque chose de nouveau. L'effectif, il a été bouleversé. La manière de jouer de Luis Enrique, elle n'est pas du tout pareille que celle de Christophe Galtier l'année dernière. Tout ça, c'est une réalité. Maintenant, je pense que si le PSG veut aller loin en Ligue des Champions, Luis Enrique va devoir se renier un petit peu. Et je l'ai déjà évoqué dans ce podcast. Je pense qu'il n'a pas l'effectif pour le jeu qu'il ambitionne. C'est très simple. C'est-à-dire que tu le vois hier, d'ailleurs. Il y a une action qui symbolise ça. Hier, t'as Lucas Hernandez qui est juste à côté de lui sur le côté, tu sais, sur la ligne de touche. Luis Enrique lui dit calme, calme, calme. Et au moment où il lui dit ça, Lucas Hernandez, il va te chercher la longue ouverture pour Kylian Mbappé et t'as le sauvetage incroyable de Soule derrière. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans la possession à outrance avec ce milieu de terrain-là. Je pense que t'as pas les capacités techniques suffisantes pour jouer le jeu que lui voudrait jouer, qu'il a pu jouer avec l'équipe d'Espagne, qu'il a pu jouer avec le Barça avant. Je pense qu'il faut accepter de faire un pas de côté, de se dire que t'as une équipe forte pour jouer la transition, de capitaliser sur tes forces.
Ça, il a accepté en 2015 avec le Barça aussi.
D'essayer de renforcer, surtout, je pense, ton système défensif, parce que t'as concédé beaucoup trop, que ce soit hier contre Dortmund ou au sur les autres matchs.
Justement.
Il faut que tu sois plus costaud d'abord.
Je dis pas.
Et que t'ailles vite devant.
Je dis pas que les bonnes questions ne sont pas posées à Luis Enrique à la suite des matchs, mais chacun a sa vision des choses. Est-ce que, par exemple, une question du genre Luis Enrique, si c'était à refaire contre cette équipe de Dortmund qui a quand même beaucoup de kilomètres depuis 10 jours dans les jambes avec beaucoup de blessés, est-ce que vous auriez quand même démarré avec 2 milieux, hein, plus Lee, le Coréen, que je ne sais pas si c'est un milieu offensif, si c'est un attaquant, si c'est une moitié attaquant, une moitié milieu.
J'ai milité pour lui, il est passé à côté complètement.
Pour le moment, sur ce que j'ai vu hier, c'est un moitié joueur de très haut niveau. Maintenant, qu'il ait pu permettre de vendre les maillots, tout ça, et qu'il soit sympathique, et qu'il ait la possibilité de progresser et de devenir un bon joueur, ok. Donc, Emery, Zahir Emery, et disons, même là-dessus, c'est un phénomène, il guérit plus rapidement que les autres. Donc, tes deux milieux, hier, contre Dortmund, qui, eux, ont la seule possibilité pour essayer de ne pas perdre ce match-là, c'est de gagner la bataille du milieu en mettant beaucoup de personnes. Et en face, tu as au milieu Zahir Emery, qui revient de blessure miraculeusement, qui est allé contre tous les diagnostics qu'il avait pu avoir, puisque c'était terminé 2023, il redémarrait en 2024, et Vitinha. Et que finalement, Donnarumma, qui était le point d'interrogation, les amis, c'est quand même celui qui, hier, fait 4 ou 5 arrêts de très très haut niveau, tu poserais la question à Lucien Riquet. Au lieu de nous parler qu'on sera meilleur, que c'est une évidence, je ne sais pas qui c'est la palisse en Espagne, mais c'est quelqu'un qui nous explique que 1 et 1, ça fait 2. Et donc, au mois de février, vous serez meilleur, mais c'est impossible de faire pire que ce que vous faites. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que si par exemple tu dis à Luis Enrique, si c'était à refaire cette bataille du milieu, elle est peut-être quand même importante dans un match contre une équipe qui quand même doit être un peu fatiguée avec tous les kilomètres que les joueurs ont fait, vous auriez encore mis un duo Vitinha Zahir Emery pour protéger un duo d'arrière centraux qui leur faut quand même ben un copain devant pour leur faciliter. Alors, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Il aurait répondu, on progressera au mois de février. Alors comment tu répondras? Et du mois de février, tu auras encore des progrès pour le mois d'avril.
Bon, les progrès peuvent passer aussi par une recrue cet hiver. C'est aussi un des enjeux de l'hiver.
Probablement, mais Roland, je rebondis juste sur quelque chose. Il apparaît de Donnarumma. Par exemple, quand je disais faire un pas de côté, c'est éventuellement accepter que le jeu au pied n'est pas le point fort de Donnarumma, arrêter de lui demander de relancer court constamment, pouvoir varier. Mais à un moment donné, est-ce que c'est pas aussi... Roland, je m'adresse à toi, tu as été entraîneur de très haut niveau. À un moment donné, est-ce que les joueurs, ils peuvent pas se prendre en main aussi et se dire, bon, voilà, on va pas systématiser à outrance parce que lui, il veut tout le temps repartir de derrière, etc. Par moment, bah voilà, comme Lucas Hernandez a pu le faire sur l'ouverture sur Mbappé. Le jeu, il appartient aussi aux joueurs, non?
Mais évidemment, à eux de se prendre en main aussi. Mais justement, tu peux faire une réunion qui dure 2 minutes en posant une question à ton coach et en disant, coach, on ne sait pas, c'est vous le coach, c'est pas nous, mais on se pose des questions. Quand on repart depuis derrière, comme vous nous demandez, que notre gardien soit moyen, bon, au pied, machin, etc. Dans la saison, ça va nous apporter combien de buts marqués pour nous et ça va nous donner combien de buts encaissés. Je pense que la réponse le sera emmerdante pour tous les entraîneurs.
Mais la question coach et politique, quel joueur, à part Mbappé éventuellement, peut aller... vous rencontrer Luis Enrique même 2 minutes et lui dire, on a un doute nous sur ce que vous nous proposez de faire, est-ce qu'on pourrait pas avoir plus de liberté, parfois se détacher de ces fameuses relances au pied, ce jeu de possession, est-ce qu'on serait pas meilleur dans la transition, dans la verticalité?
En plus de ça,
il faut du courage pour faire à ce gars là hein, pour le dire coach hein.
On regarde les matchs en tant
un joueur vient te voir et te dit coach
attends, on regarde tous les matchs ou beaucoup de matchs dans tous les pays. On regarde, si tu veux, ce qui peut se passer quand il y a un démarrage depuis derrière. Mais le nombre de fois que je regarde le match en faisant la grimace, je me mets à la place de l'entraîneur que j'étais et que je vois que ça a failli d'être intercepté.
Il y a beaucoup de buts, hein, ce mercredi soir là-dessus.
Et en plus de ça, c'est des fois intercepté. Je dis, mais ça va continuer jusqu'à quand cette mascarade là?
D'accord, il y en a eu beaucoup hein, cette semaine avec des champions des buts sur relance ratée de latéral ou de gardien. Bon, la recrue, on donnera des infos plus tard, on ne les a pas pour l'instant. Mais est-ce qu'il est indispensable, selon vous, que ce PSG-là se renforce dans son milieu de terrain? Et quel profil?
Oui, je pense qu'il est indispensable de se renforcer au milieu de terrain.
En l'état actuel, c'est pas possible d'aller plus loin avec ça.
Il y a aussi une autre possibilité, c'est qui n'a pas encore été explorée par Lucien Riquet, c'est changer de système, c'est jouer à 3 derrière, où je pense qu'un garçon comme Skriniar sera plus à l'aise à 3 qu'à 2 dans l'axe.
Et ça serait qui les couloirs?
Ça va dépendre si tu récupères Nuno Mendes ou pas, c'est toujours pareil.
Ah non, Nuno Mendes, ça c'est pas Zahir Emery. Nuno Mendes, pour moi, il redémarrera tout doucement mars. Et peut-être il terminera la saison et préparera la saison prochaine.
Donc, dans ce cas-là, si tu changes de système.
Tu sais, quand on met. Ça, c'est un chirurgien qui me l'a dit. Quand tu mets un coup de bistouri à l'intérieur d'un organisme, à l'intérieur d'un muscle d'athlète sportif, ben les cicatrisations elles sont compliquées.
Donc dans ce cas-là, tu peux éventuellement explorer une piste pour jouer justement sur ce poste-là à gauche, parce qu'à un moment donné, Lucas Hernandez, il ne va pas pouvoir te faire toute la saison-là, sachant que Kurzawa est au placard, donc il va falloir quelqu'un à ce poste-là, parce qu'on a cru comprendre que sur les matchs importants, il ne faisait pas confiance à Mukiele pour jouer là. Il y a un profil, c'est tout bête, moi je suis en train de lire en ce moment, ça circule là, que Seko Fofana est en rupture de banc à Nasser, qui voudrait... Tu me parles de profil, ouais, mais... je ne parle pas de lui précisément, mais un joueur de ce profil-là, ouais. Tu vois, qui est capable d'avancer avec le ballon, de percuter.
Danilo n'est pas capable de ça, Danilo n'a déjà utilisé
avant,
en Suisse,
hein. Avant de jeter l'éponge et de dire, bon allez, ça va, j'abandonne, j'arrive plus à suivre cette nouvelle époque. Je vais quand même essayer de vous donner une idée, au moins que je serve à quelque chose. J'entends encore parler aujourd'hui, je ne sais plus dans quelle émission et tout, que Luis Enrique n'a pas encore trouvé son équipe type.
Il est encore en observation.
Mais tu peux pas trouver un plan A. Tiens, un exemple. Une organisation à trois arrières centraux, un 3-4-2-1 comme par exemple Lens, tu démarres en fonction de ton adversaire comme ça, et ensuite, quand tu as des joueurs de talent comme tu as, et qui sont quand même des joueurs de très haut niveau, tu le vois quand même à leur salaire et à leur prix de leur transfert, tu enlèves un arrière central à 30 minutes de la fin, si le résultat n'est pas celui que tu espérais, et tu organises tes joueurs avec un plan A et un plan B. Mais je t'ai pas dit un plan de tout l'alphabet, de A à Z.
Dans l'animation, cette défense à 3, quand t'as le ballon, tu la vois d'ailleurs régulièrement. C'est-à-dire que tu vois Lucas Hernandez rester avec Marquinhos et Skriniar, Hakimi qui prend le côté droit et Barcola hier qui joue parfois ce rôle de piston gauche.
Ouais.
C'est arrivé qu'il le fasse quand il a le ballon, etc. De moduler entre 4-3-3, 3-4-3. C'est des choses qu'on voit. Après, moi je te rejoins, Roland. Je pense, mais moi j'ose espérer. Après, Luis Enrique, on peut lui faire les reproches qu'on veut. C'est quand même un entraîneur d'expérience qui a gagné une Ligue des Champions, qui a été sélectionneur de l'Espagne. Il a quand même quelques références. Moi, j'ose imaginer, j'ose espérer quand même que.
Il a pas mal d'échecs aussi.
Il bosse, que voilà, il est en train de il continue à découvrir son effectif, qu'il a quelques lacunes. Je pense qu'il y a eu un péché d'orgueil à la fin août quand il nous a expliqué qu'il n'avait pas besoin de milieu de terrain supplémentaire. Je pense que c'était une erreur. Je pense que ne pas remplacer Verratti dans cet effectif-là, ça a été une erreur parce que numériquement, tu te rends compte que tu manques d'un joueur. T'es contraint, comme tu le disais hier, de faire confiance à Kanginli, que moi j'imaginais capable de. Mais la vérité, c'est qu'au plus haut niveau, c'est compliqué.
Kanginli n'est pas encore prêt là.
Non, mais à la limite, tu l'utilises pour faire les 20 dernières minutes d'un match. Mais dans un match décisif, tu as trois milieux et lui, il fait partie des trois milieux. Mais c'est pas de l'imprudence, c'est de l'inconscience.
C'est un joueur de Mallorca il y a 6 mois, hein, Kanginli. Hein. Certains l'ont vu plus beau qu'il ne l'est lors de ses premières apparitions avec le PSG. Force est de constater qu'il n'est pas encore
pour l'instant, il n'est pas prêt au plus haut niveau. Maintenant, voilà, tu as un mercato d'hiver, tu vas pouvoir t'ajuster. Voilà, bon. J'ai parlé de Seko Fofana. Il y a un garçon qui s'appelle Bruno Guimarães qui a été éliminé avec Newcastle.
Moi, je trouve très bon.
Qui a une clause de départ. Voilà, si tu veux faire une folie dans ce club, tu as des pistes. Il y a des postes, en tout cas, il y a des joueurs, des profils qui sont disponibles.
C'est ce que nous dit Fabrice Hawkins. Le PSG sera actif, voire très actif. Sur le marché d'hiver. Voilà pour ce podcast After Paris.
Hâte du tirage au sort.
Lundi, on sera là, semaine prochaine, pour débriefer le tirage au sort et parler de l'adversaire. On sera peut-être avec une drôle de dame, ce sera soit Paulo Breitner, soit Julien Laurence, soit Fred Hermel, peut-être, soit...
Non, ce sera pas Johan. Ils sont Prochet. tous deuxièmes du groupe, les Italiens.
Parce que Naples, l'Inter et Lazio ont terminé deuxième. Merci.
À jamais les deuxièmes.
Oh là, le petit taquet de coach, c'est pour finir. Bonne semaine à tous et à très vite.
RMC After Paris.